Ça s'est fait simplement puisque j'ai consulté Internet. J'ai trouvé une petite éleveuse dans le Puy-de-Dôme qui a un tout petit élevage de passionnés qui n'est pas professionnel et qui vendait une lapine angora. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc en allant la rencontrer, en adoptant cette petite lapine pour voir si le feeling passerait bien. Je n'avais jamais eu de lapin, des animaux, mais jamais de lapin, et d'autant plus un lapin angora dont il faut apprendre à s'occuper puisque le poil de ce lapin est très particulier et demande des soins particuliers.
Qu'est-ce qu'il faut lui faire ?
C'est donc des poils très longs qui risquent de s'en mêler forcément, de feutrer, donc brossage régulier. C'est ce qu'on dit aux propriétaires de lapins angora de compagnie. Et puis il y a cette récolte du poil. Il y a eu des campagnes menées par la PETA, une association internationale pour la protection des animaux, qui est très connue, où on voit des vidéos assez horribles d'arrachage de poils de lapins angora dans des gros élevages en Chine en général. Et ça a beaucoup marqué le public, dont moi. Et donc, je voulais voir aussi par moi-même comment ça se passait, si vraiment c'était sans douleur, si on pouvait avoir une récolte du poil sans douleur pour l'animal. Donc voilà, pour moi, c'était primordial de savoir si je pouvais faire cette récolte qui respecte le bien-être de l'animal et qui puisse être appliquée à plusieurs lapins. Parce qu'effectivement, on peut brosser tous les jours un lapin. Quand on en a plusieurs, ça devient un peu plus compliqué.
Comment on récolte le poil ?
Alors, brossage régulier, autant qu'on peut le faire. Et cette race de lapin qui est le lapin angora français, MU. Donc, c'est une race qui a été sélectionnée génétiquement par l'INRA pour avoir une mue naturelle tous les 3 mois. Donc, le lapin va perdre ses poils, comme on peut voir un chien qui perd ses poils une fois par an avant l'été. Donc, on récolte avec une brosse, un peigne ou tout simplement à la main, puisqu'on a vraiment des zones du corps du lapin où le poil vient tout seul, quoi. On n'a pas du tout besoin d'arracher le poil. C'est aussi important pour le bien-être de l'animal, puisque il faut savoir qu'un lapin angora dans la nature ne pourrait pas survivre avec des poils trop longs qu'il gênerait de toute façon dans toutes ses activités, et notamment parce que le lapin les ingère. C'est un animal qui se lave énormément, comme un chat, sauf que lui ne peut pas régurgiter. Donc il y a risque de ce qu'on appelle un trichobézoar dans le jargon vétérinaire, donc d'avoir une boule de poils dans l'estomac qui peut même conduire à la mort de l'animal. Donc de toute façon, il faut faire très attention à la pousse du poil et au moment de la récolte, et à éviter que le lapin en ingère, pour qu'il en ingère le moins possible.
D'où vient cette race de lapin ?
Alors d'Angleterre, à l'origine, dans les sources qu'on trouve, c'est un... Enfin, vraiment, au départ... Tout ce qui est angora, donc qui est poil long, viendrait de Turquie, de la ville d'Ankara. Ce serait l'étymologie du mot angora.
Ankara, angora.
Voilà, viendrait de la ville d'Ankara en Turquie, qui sont vraiment les premières souches d'animaux à poil long, que ce soit les chats, les lapins, les chèvres, comme les chèvres mohair, les chèvres angora par exemple. Ensuite, donc des importations en Europe, et par la France, le lapin angora serait arrivé au XVIIIe siècle par l'Angleterre. Donc les premières souches, puis ensuite un gros développement au 19e siècle. Et au début du 20e siècle, on voit vraiment les industries modernes avec les filatures, voilà, et des élevages avec plusieurs centaines de lapins.
Qu'est-ce qui plaît tant dans cette laine ?
Alors ce qui plaît, c'est sa grande qualité. C'est une laine qui est très légère, très chaude, qui est 8 fois plus chaude que la laine de mouton. Donc on est sur un produit assez incroyable au niveau des propriétés, puisqu'on va retrouver les mêmes propriétés de la laine naturelle, donc quelque chose qui respire et qui est chaud, mais là sur des propriétés démultipliées. Voilà, quelque chose de beaucoup plus chaud, de très léger et de très doux. Souvent on entend parler de laine de mouton qui gratte, donc quand on parle de laine de pays, c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce problème avec la laine de lapin angora.
Est-ce qu'il y a d'autres élevages, à part celui dans le Puy-de-Dôme, aux alentours d'ici, qui font déjà ça ?
Alors, en Limousin, par exemple, je ne connais pas d'élevage spécialisé dans le lapin angora. Par contre, je connais des éleveurs qui ont plusieurs animaux, pas forcément laignés, et qui peuvent avoir quelques lapins angora, une petite dizaine, mais plus pour leur production pour eux, pour leur consommation personnelle, ou pour faire des petites ventes vraiment très limitées. Mais pas d'élevage vraiment dédié au lapin angora, en tout cas en Limousin. Après, il y a plusieurs petits élevages, oui, dans le Puy-de-Dôme, j'en connais un autre dans le Cantal, il y en a sûrement d'autres en France, qui font ça par passion. C'est pas vraiment un métier, c'est des retraités ou c'est des personnes qui ont une autre activité en parallèle et qui sont passionnées par cet animal et qui vont récolter le poil, le faire filer dans des, ce qu'on appelle des mini-miles, qui sont des petites filatures et qui permettent de filer des petites quantités, ou alors qui vont filer eux-mêmes au rouet, donc à la main, à l'ancienne, sur cet ancien outil. Et après, on trouve des gros élevages, souvent dans le Maine-et-Loire, qui a été la région, enfin la région des Pays de la Loire qui a le plus développé cet élevage. Et on trouve encore là-bas des élevages importants avec des centaines de lapins.
C'est important pour toi de n'avoir qu'un petit nombre de lapins, 25, tu m'as dit tout à l'heure, et donc qu'ils soient bien traités.
Oui, voilà, c'était aussi une vraie volonté. Ça a été un déclic. La première éleveuse que j'ai rencontrée élevait ses lapins en semi-liberté. Donc, ils sont en enclos, un grand enclos, grillagé, bien protégé, semi-enterré pour protéger des prédateurs. Mais le soir, ils sont rentrés en clapier. Mais voilà, il y a cette vie en liberté des lapins dans un grand enclos qui leur est dédié. Qui est quelque chose qui m'a parlé et que j'ai beaucoup apprécié par rapport à un gros élevage que j'ai pu visiter justement, qui est un élevage dit traditionnel où les lapins là sont en cage pour toute leur vie. Parce qu'il faut savoir qu'un élevage de lapins angora, on garde ces animaux toute leur vie, hein. Il n'y a pas du tout... Des fois on m'a demandé mais vous enlevez la peau des lapins, vous tuez les lapins, non pas du tout, hein. C'est vraiment juste le poil qu'on récolte, donc les lapins on les garde s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de maladie, pas de soucis, voilà, on les garde, ça vit 6 à 7 ans cette race de lapins, donc pour moi c'était primordial de leur offrir des conditions de vie correctes et donc je me voyais pas les garder en cage toute leur vie et les en sortir juste pour la récolte du poil, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire, donc cette approche d'un élevage en semi-liberté qu'on voit aussi dans les élevages bio de lapins de chair, notamment, c'est quelque chose qui me paraît intéressant et sur lequel j'aimerais aussi pouvoir sensibiliser et le public et les éleveurs éventuellement.
D'autres animaux laignés, pour rester sur le lapin, pardon, quelle est leur alimentation et est-ce que leur alimentation joue sur la qualité de leur laine?
Oui, c'est des lapins donc, qui produisent beaucoup de poils. Tous les 3 mois, c'est quand même un rythme assez soutenu. Donc, il faut un renfort en protéines au niveau de l'alimentation. Donc, actuellement, ils sont nourris au foin à volonté, granulés tous les jours avec un apport d'avoine, qui est l'apport en protéines, et de la verdure fraîche quand la saison le permet. Sachant que ce que j'aimerais à terme, c'est développer une autonomie dans leur alimentation en plantant moi-même des variétés de fourrage riches en protéines, type trèfle ou veste, et qui me permettraient de les nourrir seulement avec ces produits-là, que je ferais pousser moi-même sans avoir à faire appel à des produits industriels de l'extérieur.
Donc d'autres animaux ont rejoint l'élevage, alpaga, lama, mouton.
Oui.
Donc ça fait une belle petite ferme là.
Ça commence à faire
25 lapins, et donc présente-nous aussi les compagnons.
Oui. Alors la première à nous avoir rejoint, c'est une brebis d'Ouessant, donc ce petit mouton noir de Bretagne. C'était une opportunité en Creuse, à la Courtine, on est allé chercher cette petite brebis qui était trop grande pour son éleveur qui fait de la sélection. Ensuite Marquise qui est une alpaga de 8 ans que nous sommes allés chercher dans un petit élevage de passionnés aussi en Haute-Vienne, et la dernière arrivée hier soir, donc c'est vraiment tout récent, qui est une lama lainée Surie exactement et qui s'appelle Tinta. Donc le choix était d'avoir des animaux à laine, toujours, pour pouvoir développer un accueil pédagogique, puisque pour les quelques démonstrations de filage que j'ai pu faire en public, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de questions sur les différents animaux lainiers et sur comment fabriquer la laine. Et je voyais, bon comme moi, hein, je pouvais être aussi avant un peu déconnectée, bon même si j'avais quand même certaines connaissances, mais pas tout. Et là, je vois qu'il y a une partie du public qui est déconnectée comme de beaucoup de produits artisanaux et d'où viennent certaines productions. Et ça me paraissait intéressant de pouvoir offrir un site avec un accueil explicatif sur cette filière de la laine et aussi finalement du textile.
Accueillir, ouvrir les portes de la ferme. Parle-nous un petit peu de l'ouverture. Il y a les portes ouvertes donc ce week-end et c'est ouvert au public tout l'été. Comment tu vas faire pour accueillir du monde tout le temps?
Oui, alors les portes ouvertes, déjà, ça a été une vraie demande quand j'ai fait les marchés de Noël 2015 avec le début de ma production. Les locaux voulaient voir les lapins. Donc c'était une idée de la part des premiers clients. Donc c'est venu comme ça, de pouvoir ouvrir les portes et de montrer justement les conditions d'élevage, de montrer les lapins et de montrer d'autres animaux à laine. D'où voilà l'idée de ces portes ouvertes, donc qui ont lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 18h en continu, en entrée libre, avec visite commentée. Et ensuite, je souhaite développer cet accueil. Alors déjà avec les scolaires, j'ai accueilli vendredi là, un premier groupe de scolaires du CEL, des élèves de maternelle. Ça s'est plutôt bien passé. J'attends les retours, mais apparemment les accompagnatrices étaient contentes, satisfaites. Donc j'aimerais pouvoir développer cet accueil-là auprès des centres de loisirs également. Et puis un accueil plus familial. Bon, là, j'attends un peu de voir. Je vais profiter des portes ouvertes pour sonder un peu aussi les attentes des gens. Est-ce que ce serait des visites sur rendez-vous ou fixées ou guidées ou libres? Voilà, j'attends un petit peu d'avoir des retours ce week-end.
Nous sommes avec Frédéric Lancement et nous allons parler un petit peu de l'artisanat car il ne s'agit pas uniquement d'élever des lapins et de récolter leur laine. Ensuite, il reste pas mal de choses à faire.
Oui, il y a ensuite toute l'étape de transformation de la laine. Donc avec la laine de lapin, contrairement au mouton, la plupart du temps on n'a pas besoin de carder. Donc le cardage, c'est une étape de brossage finalement de la laine, de peignage, où on mélange les fibres bien entre elles, où ça permet de les nettoyer et puis de rendre une texture homogène qui facilite le filage. Donc il y a des machines, enfin, soit on fait ça avec des petites brosses vraiment à l'ancienne, mais ça prend beaucoup de temps, soit on a des cardeuses à rouleaux. Voilà, moi j'ai les deux modèles, mais c'est vrai que sur les lapins, la plupart du temps je n'ai pas besoin de carder et donc je file directement, parce que c'est aussi un poil qui n'est pas suinté, contrairement là aussi au mouton. Donc on a quelque chose de très propre dans les mains. Voilà. Donc je file au rouet. C'est un rouet moderne que j'ai, ce n'est pas un rouet ancien, puisque je ne connaissais pas du tout cette technique et que j'avais besoin d'avoir un outil au départ qui soit tout de suite utilisable. Donc j'ai fait ce choix-là. Et j'ai eu la chance d'être formée par l'éleveuse qui m'a vendu ma première lapine, qui elle maîtrisait le filage manuel sur rouet. Et donc j'ai pu aller me former chez elle. Et ensuite, à force de pratique, voilà, je peux dire aujourd'hui que je commence à avoir une certaine maîtrise du filage d'Angora, puisqu'il faut se rendre compte que c'est quand même des heures de travail. Pour 100 grammes de poils, je mets 6 heures en moyenne de filage. Donc ce qui commence déjà à faire, et on corse avec une certaine pratique. Donc après, c'est un filage relativement fin, certes, mais voilà. Ça prend du temps. Donc le filage se fait en plusieurs étapes. On file ce qu'on appelle d'abord un célibataire. Donc on remplit une bobine d'un célibataire, une deuxième bobine avec un autre célibataire. On pose ensuite ces bobines sur ce qu'on appelle un cantre et on fait un retors. Donc là, on retors les deux fils célibataires ensemble. Et c'est ce qui donne ce brin de laine qu'on connaît avec deux fils retordus ensemble et qui apporte la solidité au fil qui peut permettre ensuite de faire des confections tricotées ou tissées.
C'est une activité économique dont tu tires déjà un revenu ou veux tirer un revenu? Est-ce que tu vends sur place aussi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce côté économique?
Oui, alors c'est le côté un peu plus complexe. Comme tout artisanat, c'est un vrai travail de sensibilisation aussi du public. Bien qu'il y ait des gens déjà très attirés par justement la belle matière et le travail fait main. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un travail explicatif important à faire. Pour pouvoir valoriser ce nombre d'heures, puisqu'entre l'élevage puis la transformation, je ne peux pas dire qu'actuellement je vends mes produits au prix que je devrais les vendre si je voulais me payer. Donc actuellement, je ne tire pas de salaire. Je tire des recettes qui me permettent de couvrir certains frais.
Des recettes donc de la vente?
Oui, de la vente. Puisque...
Sur place?
Non, pas encore sur place, mais à partir des portes ouvertes, là, je vais aménager un espace boutique. Donc, ce sera effectivement accessible sur place, mais jusque-là, j'ai vendu sur les marchés. Donc, ma plus grosse vente, ça a été sur les marchés de Noël, fin 2015.
Et tu confectionnes quoi? Des pulls?
Alors, j'aimerais bien avoir le temps. On m'a demandé des confections. Pour le moment, je vends du fil à tricoter, donc sous forme de pelote pour les tricoteurs ou les tricoteuses, ou je vends des kits. J'avais fait deux kits avec deux modèles, avec les explications. Donc, la personne avait la laine et les explications. Elle n'avait plus qu'à suivre pour faire son tricot. On m'a demandé des confections, des tricots tout faits, mais malheureusement, pour le moment, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est prévu, notamment pour octobre prochain, puisque j'exposerai pour la première fois à la fête de la laine à Felletin. Donc là, j'essaierai d'avoir des confections tricotées.
C'est presque le plus difficile est fait, presque, une fois que la pelote est faite et avec toutes les étapes longues et minutieuses que tu as déjà décrites. Mais t'as pas le temps, ou je me rends pas compte, peut-être que j'ai l'impression que le travail le plus difficile, c'est justement d'arriver à avoir la laine, non?
Je dirais que c'est à peu près le même temps entre la transformation et la confection, à peu près sur un nombre d'heures égal, et à cela s'ajoute l'élevage. Donc c'est vrai que pour le moment, n'en tirant pas un salaire, je travaille à côté, j'ai une activité principale à côté. Donc voilà, quand je dis que j'ai pas le temps, c'est parce que ça fait beaucoup d'activités cumulées. Mais la confection prend aussi beaucoup de temps, oui, forcément. Tous les tricoteurs et tricoteuses sauront en parler.
Donc le Lapin Blanc s'apprête à accueillir des visiteurs chaque samedi matin de juillet et août, de 10h30 à 14h30, c'est bien ça?
Alors je pense proposer en fait deux visites, une à 10h30 et une à 14h30, pour tout simplement on peut avoir un flux continu, m'attendre à un flux continu, parce que c'est aussi mon lieu d'habitation et mon lieu de travail, et donc c'est compliqué d'être interrompu sans du tout pouvoir le prévoir. Donc voilà, j'aimerais effectivement mettre en place des visites à heure fixe le samedi en juillet et en août. Après, comme je disais, c'est une piste de réflexion, je verrai ce week-end si ça peut correspondre aux attentes des éventuels visiteurs.
Ce week-end, je vais à nouveau rappeler les horaires. Ce samedi 2 et ce dimanche 3 juillet, donc à Chavanac. C'est facile à trouver à Chavanac?
C'est facile à trouver, mais je mettrai quand même des panneaux indicatifs.
C'est pas loin du bourg de Chavanac?
Non. C'est pas dans le bourg, mais c'est pas loin.
À 5 minutes de Mémac, effectivement. De 10h à 18h, c'est 2 jours, ce samedi et ce dimanche, entrée libre au Lapin Blanc. Eh bien, merci de d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de la radio pour cette présentation. Il est encore temps, si tu veux, d'ajouter quelque chose. Peut-être de remercier, je ne sais pas, quelques autres personnes qui auraient été importantes dans ce projet-là et que tu n'as pas encore citées. Personne, structure ou pas?
Alors, structure, non, j'ai monté mon projet sans soutien de structure. Par contre, oui, je vais remercier Frédéric Laluc, donc l'éleveuse du Puy-de-Dôme, qui m'a formée, qui a pris de son temps pour m'aider à développer ce projet. Et puis mon mari aussi, Bruno, qui a un rôle très important, puisqu'il gère tout ce qui est logistique et grosse maintenance, et les périodes de rush aussi, où il est une aide absolument indispensable.